RFI, il est tout juste midi, temps universel, 13h ici à Paris pour un tour du monde ensemble. Bonjour, bienvenue.
RFI midi.
Charlotte Hydrac.
Avec cette affaire rare en Iran, deux juges de la Cour suprême ont été assassinés dans leur bureau à Téhéran par un homme armé qui s'est ensuite donné la mort. Une enquête a été ouverte. Les préparatifs de l'accord de trêve à Gaza, il doit entrer en vigueur demain matin, 6h30 temps universel. Un cessez-le-feu et les premiers échanges entre otages et détenus palestiniens, les derniers détails dans un instant. La fin ou pas de la saga TikTok aux États-Unis après la décision de la Cour suprême qui a confirmé son interdiction. Le réseau social chinois a annoncé sa fermeture dans le pays à partir de demain dimanche.
RFI.
À suivre aussi, a priori, ce n'est pas la ville la plus riante d'Allemagne. Chemnitz, ancien bastion néo-nazi à l'Est, devient aujourd'hui et pour 2025 capitale européenne de la culture. On sera en ligne avec Pascal Thibault sur place. Et puis l'exploit de Gaël Monfils à l'Open de tennis d'Australie. Le Français de 38 ans a renversé le numéro 4 mondial. Un homme heureux, vous l'entendrez dans le journal des sports. Rendez-vous dans un quart d'heure.
RFI midi.
Oui, en Iran, un homme armé est donc entré dans l'enceinte de la Cour suprême ce samedi à Téhéran. Il a tiré sur deux juges dans leur bureau avant de se suicider. Siavosh Gaji, on vous retrouve en direct de la capitale iranienne. Est-ce que vous avez des détails sur cette affaire ?
Alors, selon les médias iraniens, il s'agit de deux des juges les plus importants et influents de la Cour suprême, Ali Razini et Mohamed Morisset, qui ont été tués sur leur lieu de travail par un homme armé qui s'est ensuite suicidé. Selon les médias iraniens, l'assaillant, un employé de la Cour suprême, a utilisé une arme de guerre et faisait partie donc des employés de la Cour suprême, qui est un endroit ultra protégé. Les deux hommes ont jugé des dossiers très importants toutes ces dernières années, notamment liées à la sécurité nationale, au terrorisme ou encore à l'espionnage. La Cour suprême est chargée notamment de confirmer les peines de mort, notamment des opposants, comme cela a été le cas ces dernières semaines pour plusieurs opposants iraniens, notamment deux femmes activistes kurdes. Mohamed Morisset, qui était âgé de 68 ans, est sur la liste des sanctions américaines depuis plusieurs années. De son côté, Ali Razini, 71 ans, a occupé des postes importants non seulement dans le système judiciaire, mais aussi politique de l'Iran. Il a notamment joué un rôle important dans les dossiers des membres des Moudjahidines du peuple depuis le début de la révolution islamique en 1979.
Siavosh Gaji, en direct de Téhéran, on vous retrouvera pour l'enquête sur ces assassinats. Rendez-vous demain dimanche, 8h30 local, 6h30 temps universel. C'est à ce moment-là que l'accord de trêve entrera en vigueur à Gaza, annonce du médiateur qatari. Début donc de la mise en œuvre d'un plan délicat après 15 mois d'une guerre meurtrière dans le territoire palestinien. Le calendrier prévoit la libération échelonnée d'otages israéliens retenu à Gaza par petits groupes, en échange de prisonniers palestiniens. Et Michel Paul, Israël a publié la liste de ses détenus ce matin.
737 prisonniers palestiniens en tout seront libérés sur une période de 42 jours. Lors de la première phase de la mise en œuvre de l'accord, 30 détenus pour chaque otage civil libéré par le Hamas, 50 prisonniers palestiniens pour chaque soldat qui va recouvrer la liberté. Libérables également plus d'un millier de Gazaouis incarcérés depuis le début de la guerre et qui ne sont pas impliqués dans les événements du 7 octobre. Le nom le plus connu sur la liste est celui de Zakaria Zoubeidi, ex-leader des brigades des martyrs d'El-Aqsa, la branche armée du Fatah, une figure emblématique de la seconde intifada. Il s'était illustré en 2021 en s'évadant par un tunnel d'une prison de haute sécurité israélienne avec 5 de ses co-détenus. Il a déjà bénéficié dans le passé d'un autre échange. Ce matin, le ministère israélien de la Justice a présenté une liste de 95 noms des femmes et des jeunes palestiniens qui seront les premiers à être libérés. En principe, cela doit se dérouler demain en fin d'après-midi dans le cadre du premier échange. Un scénario qui devrait se répéter donc pendant au moins 6 semaines et si tout va bien, peut-être encore plus. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Oui, si tout va bien, disait à l'instant notre correspondant, c'est un processus à risque du côté des familles d'otages israéliens. Alors que le compte à rebours est lancé pour les libérations, les premières, il y a un mélange entre beaucoup d'espoir et beaucoup d'angoisse aussi. C'est ce que souligne Daniel Scheck, ancien diplomate, aujourd'hui l'un des représentants des familles des otages en Israël.
Il y a la joie de voir dès dimanche les trois premières otages montées dans une voiture de la Croix-Rouge et être rapatriées après plus que 15 mois de calvaire. Mais il y a évidemment aussi des inquiétudes de certaines familles, même si elles voient le nom de leurs proches sur la liste, et ils ne savent pas dans quel état la personne sera. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle ne l'est pas? L'anxiété n'est pas terminée, elle a juste changé de caractère un peu.
Daniel Scheck, propos recueillis par Nicolas Falaise, envoyé spécial à Tel Aviv. Cet accord de trêve arraché juste avant l'investiture de Donald Trump, ce sera lundi. Il y a un changement de programme sur le déroulé de la cérémonie, puisqu'à cause du froid polaire en ce moment à Washington, le président prêtera serment à l'intérieur du Capitole et non pas sur les marches à l'extérieur. Parmi les multiples dossiers qui vont s'accumuler sur le bureau ovale, le sort de TikTok après la décision de la Cour suprême et des mois de bataille judiciaire, la Cour qui a validé hier une loi du Congrès qui a interdit la plateforme chinoise au nom de la sécurité nationale. Dans la foulée, TikTok a annoncé sur le réseau X sa fermeture à partir de demain dimanche, à moins que, Charlotte Cosset, à moins que la saga ne soit pas terminée.
TikTok pourrait trouver une porte de sortie si le gouvernement de Biden faisait un geste pour l'application chinoise. Peu probable, le porte-parole de la Maison-Blanche a déjà déclaré que l'application de cette loi revient au prochain gouvernement. L'autre possibilité serait que le groupe chinois accepte de vendre sa filiale à une entreprise américaine. Quant à la position de Donald Trump sur le sujet, il aurait évoqué la question avec le président chinois lors d'une conversation téléphonique hier. Le patron de TikTok, Xu Shu, fait également partie des invités d'honneur à sa cérémonie d'investiture de lundi. Si cette décision est bien appliquée dès ce dimanche, TikTok prévient qu'elle serait certainement contrainte à afficher écran noir. D'autres acteurs sont moins catégoriques, estimant que la loi prévoit l'interdiction de nouveaux téléchargements et les mises à jour, ce qui permettrait cependant aux usagers actuels de poursuivre leurs activités sur TikTok pendant encore un certain temps.
Le sort de TikTok est donc désormais entre les mains de la nouvelle administration Trump. Donald Trump, plus puissant que lors de son premier mandat, va-t-il avoir les mains complètement libres? Quels sont les garde-fous, les contre-pouvoirs? On en parlera dans un petit instant avec notre invité dans quelques minutes en ligne de Montréal, le chercheur Julien Toureille. En Corée du Sud, prolongation ou non, la justice débat du maintien en détention du président déchu Yoon Suk-yeol, arrêté après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Les enquêteurs ont demandé de le garder derrière les barreaux pour une vingtaine de jours supplémentaires. Trois personnes tuées ce matin à Kiev, la capitale ukrainienne, visée par une frappe de missile balistique russe. Attaque odieuse selon les autorités. Moscou, de son côté, déclare avoir frappé un site militaire à Kiev en représailles à l'utilisation par l'Ukraine de missiles américains. Attaque MS. 13h08 à Chemnitz, en Saxe, dans l'est de l'Allemagne, qui devient pour 2025 capitale européenne de la culture. La ville n'a pas forcément très bonne réputation et veut redorer son blason. Le lancement officiel, ce sera cet après-midi à Chemnitz, où l'on vous retrouve, Pascal Thibault. Alors, quel est le programme des festivités pour les 12 prochains mois?
Bien, le programme est très riche. Il a été présenté en fin de matinée lors d'une conférence de presse. 225 projets, 1000 événements, 900 acteurs de la société civile qui ont promu leurs projets à Chemnitz, mais aussi dans la région qui fait partie du programme de ces 12 premiers mois. On n'a donc pas lésiné sur les superlatifs pour présenter le programme de la capitale européenne de la culture 2025. À l'heure des questions, cependant, après la conférence de presse, ce sont surtout les chasses à l'homme contre les migrants en 2018. et l'extrême droite en général, qui manifeste aujourd'hui d'ailleurs contre cette capitale européenne de la culture, qui ont été thématisées. La ville avait volontairement mis ce douloureux passé d'ailleurs dans son dossier de candidature. Si, avec un grand C pour Chemnitz, see the unseen, voir ce qui n'est pas visible, Chemnitz, qui s'est imposé en 2025 contre des villes allemandes plus connues, a choisi ce slogan pour inviter à découvrir une ville qui n'a pas la meilleure réputation, est un peu oubliée aux confins de l'ex-Allemagne de l'Est. L'ancienne Karl-Marx-Stadt du temps de la RDA communiste, largement détruite pendant la guerre, a un charme, disons, rustique, mais un passé glorieux de métropole industrielle dont il reste de nombreuses traces. La richesse d'autrefois explique aussi un patrimoine culturel sous-estimé. 35 ans après la réunification, Chemnitz veut cette année prendre un nouveau départ, se faire connaître et surmonter en partie un passé complexe.
Et vous nous ferez vivre donc ces festivités à Chemnitz. Pascal Thibault, envoyé spécial. Christophe Jousset nous a rejoint pour les sports. Bonjour,
bienvenue. Bonjour Charlotte.
Alors on va démarrer avec cette grosse performance de Gaël Monfils à l'Open de tennis d'Australie. 38 ans, à 38 ans, le Français s'offre une huitième de finale grâce à sa victoire sur l'Américain Fritz.
Grosse performance effectivement, d'abord parce que c'est Taylor Fritz en face, numéro 4 mondial, finaliste du dernier Masters. Ensuite parce que Monfils est maintenant un vétéran sur les 35 dernières années, le seul autre joueur de 38 ans ou plus à avoir atteint un huitième de finale à Melbourne s'appelle Roger Federer. Le score pour Gaël Monfils, 3-6, 7-5, 7-6, 6-4 et le sentiment tout simplement que ce samedi était une bonne journée pour être sur le court.
Aujourd'hui, j'ai réussi à faire une, tu vois, en fait à l'emmener dans un jeu pour qu'il se sente moins confortable. Si tu lui donnes beaucoup de rip, forcément il prend conscience et il tape très fort. Et aujourd'hui, j'ai réussi à bien mixer entre des balles un peu différentes avec les effets, les variations aussi de mes positions. C'est pas tous les jours où on arrive, tu sais, à appliquer une tactique. Et même lui, il jouait bien et quand même de continuer. Et toi, sur des coups, j'étais courageux, donc j'étais content, toi, d'aller chercher mes lignes dans le tie break. Toi, je me suis fait un peu plus violence, ouais, donc je suis content d'avoir accompli un gros match, quoi. Tu vois, un gros match, donc je suis content. Quoi.
Gaël Monfils, au micro d'Arthur Franc. En huitième de finale, il affrontera un autre Américain, Ben Shelton. Direction les huitièmes aussi pour Yannick Sinner, l'Italien, auteur d'une 17e victoire consécutive. Et pour Lerner Tin, la pépite américaine de 19 ans qui a sorti le Français Moutet. Chez les femmes, l'Ukrainienne Elena Svitolina a surpris Jasmine Paolini, la numéro 4 mondiale. Svitolina, la compagne de Gaël Monfils. Aujourd'hui, la famille avait décidé de déboulonner les numéros 4 mondiaux.
On passe au foot avec le PSG qui a officialisé le recrutement d'un attaquant.
Le géorgien Kvitcha Kvaratskhelia, il va falloir s'habituer, il a quitté Naples où il avait brillé et il arrive à Paris moyennant 70 millions d'euros, un contrat jusqu'en 2029. Paris qui joue à Lens dans un peu moins de 4 heures maintenant pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Naples de son côté se déplace aujourd'hui à Bergame face à l'Atalanta dans l'un des matchs phares du week-end de foot en Europe.
Et en Angleterre, c'est la 22e journée, Liverpool rend visite à Brentford.
Liverpool qui va chercher à consolider un peu plus encore sa position de leader de la Premier League en misant beaucoup sur son secteur offensif avec l'étincelant Mohamed Salah. Un secteur où Darwin Núñez, en revanche, peine à exister depuis quelques temps. L'Uruguayen n'a pas marqué depuis 7 matchs, ce qui lui vaut cette réponse en forme de soutien de son entraîneur Arne Slot en conférence de presse.
Darwin Núñez, peut-être que certaines personnes pensent qu'il a perdu sa confiance en lui. Moi, je ne le pense pas. Il a contribué au but contre Accrington Stanley, au but de Diogo Jota contre Fulham et à celui contre Southampton. Je pense qu'après cela, il n'a pas été souvent titularisé. Peut-être une fois, je ne sais pas exactement. Pour moi, c'est la vie d'un attaquant. Parfois on marque, parfois on ne marque pas. La chose la plus importante pour moi, c'est que nous, en tant qu'équipe, avons été capables de marquer à chaque match, à l'exception de celui face à Tottenham.
Et puis un petit mot de biathlon, Christophe.
Pour vous signaler l'annonce surprise de Johannes Bo ce matin, le Norvégien, numéro 1 mondial, ogre de la discipline, 5 médailles d'or olympiques. Il annonce qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison.
Christophe Jousset, 7h14 à Washington. Les États-Unis, où se prépare l'investiture de Donald Trump lundi, avant même son retour à la Maison-Blanche, le président américain a déjà donné le ton de son second mandat avec des déclarations parfois menaçantes sur l'économie, des expulsions, des ambitions d'annexion aussi. Porté par son triomphe électoral en novembre, le contrôle du Congrès, Donald Trump est-il pour autant tout puissant ? Bonjour Julien Toureille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Montréal. Vous êtes chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec. Donald Trump, les Républicains en tout cas, contrôlent donc la Chambre et le Sénat. Est-ce qu'il sera plus puissant que lors de son premier mandat ? Est-ce qu'il pourra faire ce qu'il veut ?
Alors, c'est ce que estiment Donald Trump et ses partisans. Ils pensent avoir un mandat pour transformer l'Amérique. Alors, lors du premier mandat, il avait aussi le contrôle de l'essentiel des institutions à Washington, comme il l'a à partir de lundi. Sauf qu'on rappellera quand même deux choses assez importantes. Oui, il a gagné nettement l'élection présidentielle en remportant l'intégralité des États clés de cette élection-là. Mais même s'il a remporté le suffrage populaire, il n'a pas franchi le seuil très symbolique des 50%, même s'il n'en est pas très très loin. Et finalement, l'avance qu'il a eue au suffrage populaire par rapport à Kamala Harris n'est pas si extraordinaire que ce qu'il évoque. Et deuxième élément, à la Chambre des représentants, oui, les Républicains ont une majorité, mais c'est une majorité très 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 ténue, l'une des plus faibles, voire la plus faible depuis environ un siècle, depuis 1931. Donc, ils ont là une certaine marge de manœuvre, mais on sait que le Parti républicain est aussi traversé par de fortes dissensions.
Justement, vous demander, dans la classe politique, est-ce qu'il a une mainmise totale ? Est-ce qu'il y a donc des garde-fous au sein même du Parti républicain ? Et aussi, est-ce que le Parti démocrate pourra jouer son rôle de contre-pouvoir ?
Alors, pour le Parti démocrate, il faudra d'abord un peu panser les plaies de cette défaite de novembre dernier, voir un peu la stratégie que l'on veut mettre en place pour répondre aux Républicains et à la présidence de Donald Trump. On a le sentiment qu'on se cherche encore beaucoup chez les démocrates, mais surtout qu'on ne veut pas jouer sur l'obstruction systématique pour peut-être montrer aux Américains qu'on est peut-être dans une situation constructive, d'opposition constructive. Et au sein du Parti républicain, alors la mainmise de Donald Trump est quand même très très forte. Il a de plus en plus d'alliés au sein de ce parti, mais j'évoquais il y a un instant, il y a quelques semaines, lors d'un débat sur le rehaussement du plafond de la dette, on a vu quand même à la Chambre des représentants, c'était pas tout à fait la même que celle qui siège depuis le 3 janvier, mais il y avait une trentaine d'élus républicains qui étaient opposés à ce rehaussement du plafond de la dette, et ça pourrait jouer des tours à la prochaine administration.
Julien Toureille, quand on parle de garde-fous, on pense aussi à la justice, le pouvoir judiciaire. Est-ce qu'il peut jouer ce rôle, sachant que la Cour suprême est désormais dominée par les conservateurs ? Est-ce que le pouvoir judiciaire peut rester indépendant ?
Mais c'est l'une des inconnues, surtout au niveau de la Cour suprême, lorsqu'on pense à la fameuse décision sur l'immunité présidentielle qui a été rendue le 1er juillet de 2024. Alors, on sait que le juge en chef, John Roberts, a été un peu déçu de la façon dont cette décision a été prise, cette perception que la Cour suprême était devenue inféodée à Donald Trump ou était devenue très trumpiste. Ça va faire partie des éléments à suivre, évidemment, dans les prochaines années. Comment cette Cour suprême va éventuellement réagir à des dispositions qui pourraient poser problème, que ce soit par exemple en matière d'immigration. Et il y aura éventuellement un test majeur. Qu'est-ce qu'il va se passer si jamais dans l'entourage de Donald Trump ou des alliés de Donald Trump commencent à émettre l'idée peut-être qu'en 2028, il faudrait qu'il se représente constitutionnellement. Il n'a absolument pas
mandat,
le droit,
oui.
Mais il faudrait voir, évidemment, dans ce cas-là, comment la Cour suprême pourrait réagir.
Et les médias, alors, Trump a qualifié les médias d'ennemis du peuple. On a vu là le patron de Meta qui a prêté allégeance, en quelque sorte, au président en abandonnant les programmes de fact-checking, notamment sur Facebook. Est-ce que les médias peuvent résister aux attaques de cette nouvelle administration ?
Les médias traditionnels, ils sont un peu pris dans une situation compliquée, surtout si on pense à ce qui s'est passé dans le premier mandat. Oui, ils essayaient de dénoncer Donald Trump, ses mensonges, ses contre-vérités, mais ils avaient profité en termes d'audience, hein, en termes de diffusion, de la présidence de Donald Trump. On avait vu le contraste assez saisissant après, lorsque Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, l'érosion très forte, par exemple, des audiences des chaînes d'information. Elles ont perdu beaucoup de crédibilité, où les médias traditionnels aux États-Unis font partie de ces institutions vis-à-vis desquelles la défiance est la plus élevée au sein de la population américaine. Ça va être très dur à reconstruire le lien de confiance. Pour ce qui est des médias sociaux, vous l'avez dit, on est quasiment dans une logique d'allégeance à Donald Trump. En fait, on suit le mouvement d'Elon Musk, et c'est vraiment pas du côté des réseaux sociaux qu'on peut s'attendre à un contre-pouvoir à l'endroit de la présidence Trump.
Alors, rapidement, Julien Touray, reste peut-être le pouvoir financier, ce serait peut-être le garde-fou le plus important.
Oui, on verra comment il va réagir, notamment sur cette fameuse question des droits de douane. Hein. Est-ce que les grandes entreprises vont essayer de faire comprendre à Donald Trump que ce n'est pas nécessairement une bonne politique, ces droits de douane, même si les grandes entreprises et les grandes fortunes américaines appuieront ce qui est l'une des promesses républicaines les plus traditionnelles, à savoir les baisses d'impôts et l'assouplissement des lois et des réglementations, notamment en matière environnementale.
Ce que pour l'instant, évidemment, le monde des affaires voit d'un bon œil. On verra ce qu'il en est donc de la résilience des institutions américaines pour ce second mandat de Donald Trump. Un grand merci à vous, Julien Touray, en ligne donc de Montréal, chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec. Et justement, avant même le retour de Donald Trump au pouvoir, certains font déjà de la résistance, notamment sur ces annonces d'expulsion de masse qui pourraient concerner des millions de personnes, et peut-être dès la semaine prochaine. La Californie, à l'ouest des États-Unis, fief démocrate, et Los Angeles, la plus grande ville de l'État, ont déjà prévenu qu'elles feraient de leur mieux pour protéger les sans-papiers. Reportage signé Loïc Pialard.
Maria garde un œil sur son adorable petit-fils de 2 ans. Elle fait partie des abuelitas, ses grands-mères sans papiers et sans histoire, loin du stéréotype du dangereux migrant. Quand Donald Trump parle d'expulsion de masse, il ne cible pas que les criminels endurcis.
Je n'ai jamais eu de problème avec la loi. J'ai toujours essayé de bien me comporter, justement pour les éviter.
Arrivée il y a 31 ans du Chili avec un visa touriste, Maria attend sa régularisation. La procédure est bien enclenchée, mais la fermeté affichée par Trump sur l'immigration pourrait tout changer. Il n'exclut pas d'expulser des familles entières.
Il dit tellement de choses qu'on ne sait plus que croire. Il dit que oui, il va expulser tout le monde, puis non. Donc on vit dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va faire tout ce qu'il annonce? Est-ce qu'il aura le pouvoir de faire tout ce qu'il annonce? On vit tous avec ses doutes.
Sa fille Jennifer est une dreamer, une protection spéciale créée par l'administration Obama pour les sans-papiers entrés enfants aux États-Unis, un statut lui aussi incertain.
Il n'y a rien de nouveau avec ce statut. On le renouvelle encore et encore, mais on ne sait pas jusqu'à quand on pourra le faire. Trump veut apparemment s'en débarrasser, mais ce serait pour nous trouver une solution permanente. On n'a pas vraiment plus de détails, donc on attend de voir ce qui va se décider.
Dans leur situation, la chance de Maria et Jennifer, c'est qu'elles vivent en Californie, un bastion de la résistance anti-Trump. 8 décembre, des centaines de personnes ont défilé dans le centre de Los Angeles avec des pancartes clamant en espagnol « Les immigrés sont bienvenus ». Le conseil municipal a formalisé le statut de ville sanctuaire de Los Angeles. Jorge Mario Cabrera travaille avec Chirla, une association d'aide aux migrants.
Ce qu'une ville sanctuaire veut dire, c'est que Los Angeles ne mettra pas d'argent, de personnel ou de ressources à disposition des agents fédéraux pour mener leur expulsion. C'est très simple, mais ça aidera à éviter, ou en tout cas aidera à ralentir, le travail de ces agents à Los Angeles.
Roxanne Hogg, porte-parole du Parti républicain de Los Angeles, dénonce de vaines gesticulations.
L'immigration relève de la compétence du gouvernement, pas d'un conseil municipal. Est-ce qu'on vit dans un état de droit ou pas? C'est très décevant de voir des élus censés défendre la loi faire exactement le contraire. Ils préfèrent qu'on parle d'eux pour montrer qu'ils s'opposent à Donald Trump.
En 2024, l'administration Biden a expulsé 270 000 personnes. Donald Trump vise 5 fois plus chaque année. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
RFI mobilisé pour suivre l'investiture de Donald Trump, prévue donc lundi. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a fait savoir qu'elle participerait à la cérémonie.
RFI. La France à midi. Charlotte Idrac.
Recevoir une brosse à dents dans un carton 20 fois trop grand. Les habitués des livraisons pour des produits achetés en ligne ont déjà connu ces expériences de paquets inadaptés aux marchandises. Mais aujourd'hui, les choses bougent. Transporteurs et industriels du monde entier ont rendez-vous là le 28 janvier à Paris pour la semaine du packaging professionnel pour débattre de nouvelles solutions. Marina Mielzarek.
D'après vous, le pays le plus en pointe dans les produits emballés à transporter, quel est-il ? Eh bien, c'est la France. Le seul pays au monde à avoir inscrit dans sa loi la notion d'emballage inutile. Oui, parce que comme l'explique Fabrice Pelletier, l'un des plus grands experts internationaux des emballages, emballer un produit, c'est répondre à trois fonctions très réglementées : protéger, conserver et informer.
Les produits ne sont jamais envoyés un par un, ils sont regroupés à l'intérieur d'un emballage de livraison qui peut être une caisse en carton. Et l'emballage de livraison, c'est celui sur lequel on va justement mettre du film pour faire tenir ses palettes et regrouper tous les emballages, des housses, des cornières pour pas que cela s'abîme. Et quand on va parler après d'emballage de transport, ce qui va changer, c'est l'emballage de transport en lui-même. C'est-à-dire que si vous partez en bateau, ben vous allez mettre ça dans des containers pour bateau, pour être sur les porte-containers. En avion, ça va être des caisses spécifiques pour les avions cargo. Et dans le transport, que ce soit maritime ou ferroviaire, c'est toujours des palettes que vous allez regrouper, donc 28 dans un semi-remorque par exemple, et une plus grande quantité dans un train.
France Burnand dirige le CELO, le rendez-vous annuel des transporteurs de marchandises, en mars prochain. Pour elle, l'intelligence artificielle va révolutionner le domaine. Et elle est enthousiaste, vous allez l'entendre.
Comment vous dire que l'IA offre un potentiel absolument immense? Les contraintes douanières pour minimiser les retards, l'emballage, bonheur absolu, parce que l'IA va permettre l'optimisation de l'emballage. On va créer des designs adaptés à chaque produit, à chaque mode de transport. Ça va nous permettre de réduire les coûts, les déchets. Elle va pouvoir nous prédire les risques pour anticiper les problèmes, température, d'humidité, de choc, selon chaque mode de transport, à chaque région, à chaque pays, s'il y a des vols. Puis dès qu'il y a un nouvel incident, on pourra immédiatement rentrer l'information, obtenir des plans B, comme on dit, en réduisant les erreurs humaines, qui va nous amener à une harmonisation des pratiques mondiales. Donc ça n'est que des bonnes nouvelles.
Dans les débats professionnels cette année, il y aura encore le souci climatique, avec entre autres l'idée de plus en plus répandue de réutiliser les emballages mais aussi les transports. Donc, ne plus circuler, naviguer ou rouler à vide.
Et on se transporte maintenant aux Pays-Bas, au festival Eurosonic, rendez-vous des artistes émergents de toute l'Europe. Et parmi eux, Marta Daro, qui a présenté son premier album, Philophobia. Reportage, José Marinho.
Marta Daro est une chanteuse belge d'origine angolaise de 30 ans. Son premier album, Philophobia, est dépouillé et magnétique. Les sonorités empruntent autant à la soul qu'au trip-hop.
J'aime bien ne pas rester dans une cage et un peu explorer dans différents genres.
Mais ce qui la caractérise, c'est sa voix atypique.
C'est ma force, ouais.
Son timbre singulier rappelle celui de Beth Gibbons, la chanteuse du célèbre groupe britannique Portishead.
Je suis fan de trip-hop, donc je prends le compliment, merci.
Marta Daro est une artiste aux multiples facettes. Elle est chanteuse et autrice, mais aussi actrice.
Je fais aussi du cinéma et là, j'ai commencé à créer des pièces de théâtre. Ça sert pour la scène, de pas raconter seulement une histoire avec ma voix, mais aussi avec tous les autres éléments, que ce soit la lumière, que ce soit avec des gestes, que ce soit avec la musique. Donc la musique fait partie de un peu tout ce que je fais.
Et tout ce qu'elle fait a commencé en 2015. Depuis, cette artiste adopte une approche cinématographique pour explorer sa bande-son introspective et nous mène à des moments de joie et d'hallucination dignes d'un film de science-fiction, comme ici sur ce titre. « Silo Fodia lui donne aujourd'hui l'occasion de mettre en avant son histoire. Et son vécu est lié à celui de sa famille qui a fui la guerre civile en Angola dans les années 90.
Ouais, mon parent, ma famille viennent tous d'Angola. Ils sont partis à cause de la guerre civile, du coup ils sont venus ici en Belgique. Cette année, j'y vais pour la première fois. J'ai hâte de voir ma famille en vrai. J'essaie d'être cette double culture. C'est un truc que je suis, plus que je recherche. Du coup, là, je vais un peu reconnecter.
Se reconnecter à ses racines résume bien son disque sensible sur ses attentes après son concert au festival Eurosonic. Elle ne cache pas ses ambitions.
Voir le monde, ouais. Voir le monde et que le monde me voit.
Honnête et profonde, Marta Daro signe un album à son image. Il regorge de lumière sous ses compositions mélancoliques. José Marinho, Eurosonic, Pays-Bas, RFI.
Et dernier jour ce samedi de ce festival Eurosonic aux Pays-Bas. Restez avec nous, Afrique Midi dans quelques secondes.